Bonjour Jean-Gilbert, bonjour Annie. Vous êtes les premiers à être connectés ce matin. Bonjour Immaculée. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Rachel, sois bénie. Bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. Donc la sœur Ocilia, la sœur Chantal, la sœur Mona. Donc, comme vous voyez, je suis à la maison ce matin. Good morning, Pastor David. Yeah, yesterday was supposed to be some time to rest, and it wasn't. It wasn't at all, but it's okay. Hope you had a good day yesterday and during the weekend also. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour Rosie, que Dieu vous bénisse. Hello Sylvia, God bless you. Je veux dire bonjour aux gens. Bonjour Lucie. Bonjour à la belle-mère. Ah, ici, il fait frais aussi ce matin. Il fait même bien frais pour un bon nombre de gens. J'ai essayé de vous dire combien il fait. Sur Montréal, je regarde sur mon application. Sur Montréal, il ne fait que 14 degrés actuellement. Non, Emma. Non. Couchez. Couchez. Bonjour Sharon, que Dieu vous bénisse. Il semble qu'il y a des petites interruptions. Est-ce que ça se peut? Nema est toujours là, à mes côtés. Là, elle vient de s'affaisser au sol. Elle va roupiller puisqu'elle n'a pas roupillé de la nuit. Salut Alex. Pas assez chaud. Oh non, c'est juste agréable comme ça. Donc on espère que vous avez passé une bonne journée hier. C'était la fête du travail. Au moins en Amérique du Nord, je pense qu'en Europe, ça ne correspond pas. Mais le premier lundi de septembre au Canada et aux États-Unis, pour ceux qui nous regardent de outre-Atlantique. Donc le premier lundi de septembre, c'est journée fériée ici. La fête du travail ou la fête des travailleurs, je suis pas sûr, je sais qu'il y a les deux là, mais je sais pas c'est laquelle. Je crois que c'est la fête du travail tout simplement. Alors bonjour à ma mère. Bonjour Guy. Je serai probablement de retour demain à ma diffusion habituelle à l'église, mais pour ce matin, je suis à la maison. Vous Vous avez encore un bon 5 minutes pour aller vous chercher un café, un thé, un chocolat chaud. Bonjour Sylvie, bienvenue parmi nous. Bonjour Thérèse, 8h25. Shalom la belle-mère. Alex, tu n'es pas sur un terrain de golf ce matin? La saison arrive à terme, tu dois en profiter. Bonjour Myriam, bonjour Donald, que Dieu vous bénisse. On a encore 2-3 minutes, même un peu plus, avant qu'on débute ce matin. Je m'excuse du bruit ambiant qu'il pourrait y avoir. Les grues sont en mouvement devant la maison. Bonjour Denise, que Dieu vous bénisse. Bien content de vous avoir avec nous ce matin. Hermana Flori, que Dios la bendiga. Et que Dios bendiga también a hermano Luis. Hermana Gladys, que Dios me la bendiga. Hacia en Ecuador. J'étais sur la route pratiquement toute la journée hier, des choses à faire pour Daphné, et on était donc dans la voiture quand il y a eu le gros orage ou la grosse pluie vers 11h30, midi par là. Ça tombait dru. Bonjour Diane. Bienvenue parmi nous, sois béni. Bonjour Marie-André, soyez bénie. Et aussi salutations à notre ami Farley. Que Dieu te bénisse, Farley. Bonne journée à toi. Donc, on a terminé notre thématique du mois d'août, dimanche avec la 21e image ou le 21e symbole. Donc, on entreprend quelque chose de nouveau cette semaine. Alors, ceux qui n'auraient pas vu l'assemblée de dimanche, qui voudraient voir la prédication, bien sûr, c'est toujours disponible sur la page Facebook de l'Église et sur la page internet. Je suis désolé pour les coupures. Je ne sais pas ce qui occasionne cela. Pourtant, ici, tout semble fonctionner correctement. Alors, je vous avise, si vous entendez ronfler, cinéma. Daphné est au travail en partant, donc ça ne peut pas être elle. Puisque moi, je serai en train de vous parler, ça ne sera pas moi. Si vous entendez ronfler, et ça se peut, c'est la demoiselle ici qui va assurément ronfler dans quelques instants. Oh, content de te lire parler. Bien heureux que tu sois avec nous. Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis. Bonjour Suze. Salutations à toute la petite famille. C'est gentil, Marie-André. Nima est une star sur les réseaux sociaux de moi et Daphné. Alors, on va prier pour débuter ce matin. Alors, ça, je vous explique ce qu'on étudie cette semaine. Alors, merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Pour cette occasion que nous avons encore une fois de plonger nos regards dans ta parole. Une parole qui est riche, une parole qui bénit, une parole qui transforme, une parole qui édifie. Alors ce matin, oui, on veut te dire merci de ce que tu nous rends capables de partager ce moment. Que ce soit, Seigneur, parce que le souffle de vie nous habite, que ce soit parce que tu as pourvu les moyens techniques pour que nous puissions être branchés, que ce soit, Seigneur, parce que tu as pourvu aussi une parole pour aujourd'hui, parole que tu as préparée de toute éternité en pensant à cette journée. Nous te demandons, Seigneur, de nous conduire, de nous diriger, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre esprit à ta parole, à ta pensée. Et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans ton merveilleux et précieux nom, Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue parmi nous en ce mardi 7 septembre 2021. Donc exceptionnellement, je suis à la maison ce matin. Et puis c'est donc depuis la salle à dîner que je vous... transmet cette bénédiction matinale. Comme vous avez su, on a terminé donc notre étude sur les symboles que la Bible nous donne quant à la parole de Dieu. On a vu la dernière glorieuse et merveilleuse image dimanche qui était la parole qui s'est faite chair, la parole qui s'est manifesté à travers Jésus. Donc aujourd'hui, on entreprend donc une nouvelle thématique, au moins pour cette semaine. C'est un passage que j'ai eu l'occasion de partager avec l'Église il y a environ 3 ans, en 2018. Je le reprends parce que dimanche, durant la prédication, j'ai mentionné un des versets important de ce chapitre-là, le verset 1, dans Jean 13. Donc c'est Jean 13, et on va lire ce matin du verset 1 au verset 12. Jean 13, du verset 1 au verset 12. Et on va donc voir comment ce chapitre peut nous édifier tout au long de cette semaine. Juste une petite chose à changer ici. Voilà. Donc Jean 13, le verset 1 nous dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon, Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la main, les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. On est dans un contexte tout particulier lorsqu'on étudie ce passage. Tout au long de cette semaine, je pense qu'en étudiant le chapitre 13, la phrase qui va revenir régulièrement et qui est à la base de toutes les actions, de toutes les paroles et de toutes les attitudes que Jésus va avoir dans Jean au chapitre 13, c'est lié au premier verset qui nous dit que Jésus, ayant aimé les siens, ou sachant tout d'abord que son heure était venue de passer de ce monde au Père, donc de mourir, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Cette idée de mettre le comble à son amour pour nous. Alors, non seulement on va parler, oui, effectivement, comment l'amour de Jésus à notre égard s'est manifesté, mais on va se rappeler que Jean nous personnifie régulièrement Jésus comme étant le berger. Alors, Jésus, maître de ses disciples, Jésus, je m'excuse, Jésus, berger de ses brebis, va faire une action qui a prime abord est tout à fait saugrenu. Il va laver les pieds de ses disciples. Pour vous remettre dans un contexte historique et social de la chose, la personne qui lavait les pieds des invités, voire des habitants de la maison, c'était toujours la personne la plus basse au niveau des rangs sociaux. Donc, en fait, le plus bas des esclaves qu'on pouvait avoir dans une maison, c'était à lui que revenait le devoir de laver les pieds de ses maîtres, de laver les pieds des personnes qui habitaient dans la maison, et bien entendu, de toute personne qui allait rentrer dans la maison. Alors, lorsque Pierre regarde Jésus, il lui dit « Non, non, tu ne vas pas me laver les pieds », à prime abord, il a tout à fait raison, parce que ce n'est pas à Jésus de laver les pieds de ses disciples. Ça serait plutôt aux disciples de réfléchir à savoir qui est le plus bas parmi eux et de mandater celui-ci pour aller laver les pieds de tous les autres. On ne va pas s'arrêter trop aujourd'hui sur pourquoi Jésus va laver les pieds. Il le fait. Oui, assurément, il y a des leçons qu'il va enseigner à ses disciples au niveau du leadership, au niveau de ce qu'est un berger, au niveau du travail pastoral que Jésus accomplissait auprès de ses disciples et que les disciples seront à court terme appelé à faire avec l'Église naissante, avec l'Église primitive les disciples vont être mandatés et auprès de laquelle ils vont travailler. La chose qui m'intéresse ici, et c'est pour ça que j'ai mis le titre à cet enseignement du jour, et malgré tout, il leur lava les pieds. Ça va être bon pour nous de comprendre que malgré tout, Jésus nous a lavé les pieds, et de comprendre aussi comment nous aussi, malgré tout, et en dépit de tout ce que on pourrait vivre ou avec quoi on pourrait être confronté, malgré tout, on doit imiter Jésus. Donc, premier point, Jésus connaît les détails de sa mort. On sait assurément que Jésus, de par son onction, de par le fait que la toute divinité de Dieu habitait en lui, de par que Jésus était Dieu, il savait effectivement ce que chaque journée allait amener. Et il savait assurément que son heure était donc arrivée. La Bible nous dit, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Comme je le disais hier, lorsque Jésus a eu à affronter ce qu'il a eu à affronter, lorsque Jésus a marché vers la croix, il l'a pas fait avec du plaisir, il l'a pas fait en tapant des mains, en souriant, en fredonnant un air joyeux. Non, parce que même le soir de son arrestation, il va même dans sa prière qui révèle toute l'humanité qui l'habite, il va dire, Père, si tu pouvais enlever de mes lèvres cette coupe, mais en toute chose que ta volonté soit faite. Donc Jésus prend une décision d'aller vers la croix, prend la décision d'accepter de porter l'iniquité, le péché du monde sur ses épaules et d'affronter la croix. Mais il ne le fait pas sans douleur, il ne le fait pas sans appréhension, il ne le fait pas sans savoir que d'un seul claquement de doigts, il pourrait être épargné d'une telle mort atroce. Donc Jésus connaît les détails de sa mort, le verset 1 nous dit, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et dans ce moment de douleur, dans ce moment d'effroi, Jésus va malgré tout laver les pieds de ses disciples. Et pour nous, c'est la première leçon pour nous ce matin. Est-ce que je suis encore prêt à servir l'Église? Est-ce que je suis encore prêt à servir le peuple de Dieu? Est-ce que je suis encore prêt à servir Dieu, même lorsque je passe par les moments les plus difficiles de mon existence? Chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, on a à passer par des moments difficiles. Chacun d'entre nous, il y a des saisons qu'on rencontre et qui sont exigeantes, voire particulièrement douloureuses. Certaines personnes, face à la douleur, face à la difficulté, vont se cloisonner, vont se mettre dans un trou, se cacher et vont arrêter de servir. Certains vont passer par un moment difficile et vont être frustrés et vont marquer leur frustration en disant, ben, j'arrête de servir. Jésus passe par le moment le plus difficile de son existence. Jésus passe par le moment qui va le conduire à une mort, et pas à une mort paisible, mais à une mort atroce. Et malgré tout, en sachant ce qui va venir, en dépit qu'il sait ce qui va venir, il décide de laver les pieds de ses disciples et de faire preuve de grâce, d'amour, d'humilité, de bonté. Et surtout d'être utile à ses disciples. Parce que s'il lave les pieds, c'est parce que les pieds sont sales. Donc Jésus va non seulement honorer ses disciples en leur lavant les pieds, mais il va leur rendre un service parce qu'ils ont marché toute la journée et que leurs pieds ont donc besoin d'être nettoyés. Est-ce que toi, quand tu passes par un moment difficile, tu es prêt à t'abaisser malgré tout et à continuer à servir? Est-ce que moi, lorsque je passe par un moment difficile, est-ce que j'ai ce même réflexe que Jésus a eu de continuer ou de veiller à continuer à être utile est profitable pour le royaume de Dieu. Donc Jésus va, malgré sa mort imminente, laver les pieds de ses disciples. Jésus connaît son mandat. Jésus sait qu'il est Seigneur, Jésus sait qu'il est Maître. Le verset 3 va dire, « Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu du Père et qu'il s'en allait à Dieu. » Donc Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Et malgré tout, il va laver les pieds. Jésus, il n'y a pas plus haut que lui. Il n'y a pas un plus grand maître que lui. Il n'y a pas un Seigneur autre que lui. Il est même le Messie, l'élu, le Christ. Donc celui que de toute génération, on a attendu, celui qui, depuis le jour où Adam et Ève ont péché et ont précipité l'humanité dans la déchéance et dans la condamnation, voilà celui qu'on a attendu durant toutes ces années, tous ces siècles, ces millénaires, et voilà qu'il arrive. Il va accomplir l'acte salvateur, et avant ça, il va laver les pieds de ses disciples. Et ce faisant, il se positionne par rapport à ses disciples comme un esclave, comme le plus vil des serviteurs qu'il pourrait y avoir dans l'habitation ou dans la maison. Jésus connaît son mandat. Il sait les talents qu'il a. Il sait la puissance qu'il a. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Donc Jésus sait que d'un seul claquement de doigts, il peut faire venir les myriades d'anges sur cette terre, se venger de ceux qui veulent le mettre à mort, les réduire au silence, prendre le pouvoir sur Jérusalem, renverser César et l'Empire romain. Jésus peut tout faire. Mais au milieu de cette toute-puissance qu'il a, la décision qu'il prend, c'est de laver les pieds de ses disciples. Trop souvent, malheureusement, on voit des serviteurs de Dieu, on voit des enfants de Dieu. On va ouvrir ça plus quand on dit serviteur de Dieu. Tout de suite, on pense à un pasteur, on va l'ouvrir davantage. On voit des chrétiens, des croyants, qui lorsqu'ils se sentent investis d'un certain talent, d'un certain don, investi d'une certaine autorité, mais à ce moment-là, il vient à y avoir des castes, une fragmentation dans la communauté chrétienne. Il y a eux qui sont bien élevés, qui sont élevés, qui sont hauts, et les autres qui sont en dessous d'eux. Jésus le sait très bien. Il est le plus haut parmi les plus hauts. Et malgré tout, il va s'abaisser au statut d'esclave pour laver les pieds de ses disciples. Le fait que tu saches que Dieu t'a appelé, le fait que tu saches que tu aurais reçu un mandat de la part du Seigneur, le fait que tu saches que tu aurais des dons et que tu les pratiquerais, qu'ils seraient en action, ne fait pas de toi ou ne t'empêche pas ou ne devrait pas t'empêcher de laver les pieds de tes propres serviteurs, de ceux que tu crois être en dessous de toi. En fait, Jésus donne l'exemple du leader par excellence. Celui qui est assez sûr de lui, qui assume assez ce qu'il a en lui comme talent et comme autorité, qu'il ne voit pas comme étant une honte de se mettre à genoux à quatre pattes devant ses propres serviteurs, de défaire leurs sandales et de laver leurs pieds. Jésus, qui sait que tout a été remis entre ses mains, va malgré tout être l'esclave de ses serviteurs. C'est un merveilleux amour, on l'a dit tout à l'heure, mettant le comble à son amour. Donc Jésus, qui sait que sa mort arrive, ne va pas tomber dans une frustration qui fait qu'il n'est plus en service. Jésus, qui se sait bien au-dessus des 12, va malgré tout s'abaisser pour manifester son amour en lavant les pieds de ses disciples. Plus loin encore, au verset 11, on nous dit, et je lis pour vous, car il, Jésus, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Jésus sait que parmi les 12, il y en a un qui a déjà été convaincu par le diable et qui va le livrer dans les minutes ou dans les heures qui viennent. Jésus le sait. Et malgré tout, il va laver les pieds, même à celui-là. Celui qui va le vendre, Jésus, malgré tout, va lui laver les pieds. Lorsque Jésus met le comble à son amour, il va même mettre le comble à son amour, même pour celui qui le vend, celui qui est un traître, celui qui est un ennemi de la foi. Et assurément, quand on travaille pour le Seigneur, on ne rencontre pas toujours que de belles personnes. Quand on sert le Seigneur, il n'y a pas toujours à nos côtés et sous notre service des gens qui sont agréables et qu'on aime servir. Il arrive très souvent que par la position que Dieu accorde à son serviteur, qu'on ait à servir des gens qu'on a moins envie de servir, qui sont plus difficiles à servir. On va dire en bon québécois, on est appelé à aimer parfois des gens qui sont pas trop aimables. Jésus, malgré le fait qu'il a un ennemi et un traître devant lui, Judas, va malgré tout le laver et va le traiter comme tous les autres. Quand tu sers, quand je sers, est-ce que je suis capable, en dépit des conflits, en dépit des choses qui peuvent être divergentes entre nous, est-ce que je continue malgré tout à servir la personne qui m'a offensé? Est-ce que je continue, voire à servir et à honorer même la personne qui serait pour moi un ennemi? Voilà le type d'amour et voilà le type de service que Jésus va nous montrer. Être capable d'aimer et être capable de servir jusqu'à prendre soin, servir et aimer ses propres ennemis. Troisième point important, verset 18. Ce n'est pas vous tous, la Bible va nous dire, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Jésus va dire, je connais ceux que j'ai choisis. Jésus connaît dans le groupe ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et malgré tout, il va les servir. Est-ce qu'ils sont simplement 12 à ce moment-là? En règle générale, on pense que oui, effectivement, qu'ils sont 12. Mais il se pourrait que, comme on voit à l'occasion, le jour de la Pentecôte, ils sont 120, dans d'autres occasions, ils sont 70, dans d'autres occasions, ils sont même jusqu'à quelques centaines. Jésus va servir également, équitablement, tant ceux qui sont siens que celui qui est son ennemi. Donc Jésus ne va pas faire de parti pris. Jésus ne va pas faire de rang entre ses différents serviteurs et entre ses différents disciples. Il va tous les traiter également. Peux-tu dire que tu sers effectivement toute personne de façon égale? Quand quelqu'un rentre à l'église, quand quelqu'un vient pour la première fois, moi, je suis sur la tribune, alors je remarque très régulièrement quand quelqu'un vient et qu'il n'a pas l'attitude qui est celle à laquelle on s'attendrait habituellement dans une église. Il n'y a pas peut-être la gestuelle, il n'y a pas peut-être le sourire, il n'y a pas peut-être les paroles nécessaires, il n'y a pas peut-être même la tenue vestimentaire qu'on jugerait appropriée pour l'église. Lorsque tu vois cette personne rentrer, quelle est ton attitude? Comment la sers-tu? Peux-tu dire que tu la sers aussi admirablement que tu servirais quelqu'un de qui tu es convaincu qu'il est un chrétien ferme, un chrétien solide, un chrétien engagé et surtout pas un ennemi contre la foi et contre toi? Peux-tu dire que peu importe qui c'est est devant toi, tu le sers de façon admirable et équitable et égale, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelle que soit son apparence, quel que soit son vécu. Jésus connaît les siens et malgré tout, il va inclure dans son service et dans son lavement de pied ce traître que va être Judas dans quelques instants. Jésus connaît les siens, mais le verset 28 nous dit, et je le lis pour vous, « Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. » En fait, non, c'est le verset 38, désolé, verset 38. Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. » Ce passage-là se poursuit avec Jésus qui parle de sa mort et Pierre qui dit « Regarde, tout le monde pourrait t'abandonner, mais moi je vais te suivre jusqu'à la mort. » Et Jésus lui dit « Regarde, je connais tes failles, je connais tes manquements, je sais que dans quelques heures tu vas me renier. Le coq n'aura pas eu le temps de chanter que tu m'auras déjà renié trois fois. Avant que le soleil se lève, tu m'auras déjà renié trois fois. » Dans l'espace de quelques heures, entre ce moment où je te lave les pieds, et dans quelques heures, tu m'auras déjà renié trois fois. Jésus le sait. Jésus connaît la faille de ses disciples. Jésus sait que Pierre, bien qu'il soit motivé pour suivre Jésus jusqu'à la mort, Jésus sait très bien que dans quelques instants, il va l'abandonner, voire même le renier. En fait, réalisons une chose. Quand Jésus lave les pieds de tous ses disciples, il n'y en a aucun qui reste avec lui lorsqu'on l'arrête à Gethsémané dans quelques heures. La Bible nous dit que tous sont partis, que tous ont fui. Il y en a même un qui a fui nu parce qu'on a essayé d'agripper son vêtement. Il a préféré laisser son vêtement partir plutôt que d'être arrêté. Donc, ils ont tous abandonné Jésus. Certains ont marqué leur abandon d'une façon encore plus difficile, plus dure, plus grave. Judas qui vend Jésus, Pierre qui renie Jésus. Mais tous l'ont laissé de côté. Il n'y a personne qui est allé avec lui jusqu'aux derniers instants. Et pourtant, Jésus va avoir lavé les pieds de chacun de ses disciples-là, même s'ils savaient ce qu'ils allaient faire. Ça veut dire que Jésus était capable de passer outre l'outrage qui allait lui être réservé. Jésus était capable de passer outre l'abandon qu'il savait qui arrivait dans quelques instants. Jésus était capable de passer outre le fait que ses amis lui tournent le dos et le laissent seul. Il savait tout ça, et malgré tout, il va laver les pieds de ses disciples. Pourquoi on vous enseigne ça aujourd'hui? Premièrement, pour nous tous qui servons, pour qu'on puisse réaliser comment Jésus nous a montré le service, comment Jésus a illustré quel était le cœur qui devait nous habiter lorsque nous servons, qu'on puisse servir en dépit du moment difficile, qu'on puisse servir en dépit de ce statut élevé que l'on croit avoir et ce sentiment de respect qu'on voudrait que les gens nous vouent, en dépit que les gens nous accordent ou non leur respect, Jésus va laver les pieds. Et nous, qui sommes ses disciples, nous sommes appelés aussi à faire de même. On parle de cela aujourd'hui pour nous apprendre à servir même nos ennemis, même ceux qui sont au sein de nos rangs et qui vont s'opposer à nous. On doit les servir aussi. Ceux qui se cachent parmi nous comme étant des serviteurs de Dieu et qui ne le seraient pas, nous qui sommes au service de Dieu, nous devons les servir malgré tout, sans faire de clivage entre qui que ce soit au niveau de la congrégation. Servir équitablement l'ensemble du peuple de Dieu et l'ensemble des gens vers lesquels le Seigneur nous envoie servir. Et servir même si on sait que les gens vont nous faire défaut, que les gens vont nous abandonner. Ou que les gens, dans notre cas, on ne peut pas être sûr que les gens vont nous abandonner. Pour sûr, il y a des gens qui vont nous abandonner, mais on ne sait pas c'est lesquels avant qu'ils ne le fassent. Mais malgré tout, avec le risque d'être abandonné, avec le risque de ne pas être accompagné dans nos moments difficiles, malgré tout, on doit servir. Alors pour nous qui servons, c'est les leçons pour aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous puissiez penser à ça aussi en lien avec les serviteurs que vous avez autour de vous, en lien avec les pasteurs que vous avez autour de vous. Dans notre cas, on est 4-5 pasteurs au niveau de la congrégation locale. On a des pasteurs au niveau du réseau. Sachez que lorsque nous servons en tant que pasteurs, on est appelé à servir même quand les moments sont difficiles. On est appelé à servir même si on sait qu'il y a des places qui nous sont vouées et malgré l'honneur de servir Dieu, on doit malgré tout être esclave. On sait qu'on doit malgré tout servir nos ennemis. On sait qu'on doit malgré tout servir aussi tous ceux-là qui risquent de nous abandonner, de nous laisser tomber, de nous quitter. Et on doit servir même celui qu'on sait qui va faillir tout à l'heure, celui dont on sait que la chute est proche, ou même celui qui effectivement est tombé et a chuté. L'important aujourd'hui, c'est de prier pour notre service personnel et de surcroît à cela, de prendre un temps tout simplement pour prier pour les serviteurs de Dieu. Vous avez des pasteurs. Je vous invite aujourd'hui à prier pour chacun d'entre eux. Aujourd'hui, à comprendre, à saisir qu'est-ce qui est demandé de ces serviteurs-là et quel est le service qu'ils apportent auprès de vous. Et croyez-moi, j'aime ma congrégation, j'aime mon Église de tout mon cœur. Et je sais que la congrégation me le rend bien et je ne suis pas en train de vivre un moment difficile où je me sens abandonné, persécuté, non. Mais je sais que certains de nos pasteurs passent par des moments difficiles à cause de l'abandon, à cause de la critique, à cause des attaques. S'il vous plaît, priez pour eux aujourd'hui. Moi, j'ai prié pour vous maintenant. Seigneur, quel exemple tu nous as donné quand dans cette dernière journée où tu aurais pu avoir toutes les plus grandes préoccupations de cette terre et ça aurait été tout à fait compréhensible que tu n'aies pas envie de t'abaisser, de servir ces personnes qui allaient dans quelques instants t'abandonner et te laisser tomber. Et pourtant, Seigneur, l'exemple que tu nous donnes quand tu mets le comble à ton amour, c'est que tu décides effectivement de les servir et de continuer à servir malgré la difficulté du moment, malgré la douleur du moment. Merci Seigneur parce que tu nous donnes aussi l'exemple que nous ne sommes jamais trop haut pour faire quelque besogne que ce soit. Il n'y a pas un rang qui est trop élevé qui fait qu'à partir de maintenant, voici les services que je ne ferai plus. Seigneur, tu t'es abaissé comme pour être un esclave de tes propres disciples. C'est l'exemple que tu nous donnes, Seigneur, à suivre, de ne pas avoir peur de s'abaisser pour servir. Et lorsque nous servons, que nous puissions servir équitablement et d'une même manière. Celui qui est contre nous, celui qui est à veille de partir, tout comme ceux qui nous sont fidèles. Tu nous demandes, Seigneur, de servir avec amour, avec humilité, avec fidélité, l'ensemble des personnes vers lesquelles tu nous places. Alors, Seigneur, nous prions qu'on puisse le faire. Nous prions, Seigneur, que tu travailles notre cœur afin que, en lisant l'exemple que tu nous as laissé, en regardant l'exemple que tu nous as laissé, que nous puissions nous aussi servir comme il se doit. Je prie ce matin, Seigneur, pour les pasteurs qui nous entourent. Tu vois, Seigneur, leurs tâches, leur travail, leurs tracas, leurs inquiétudes, les moments difficiles qu'ils peuvent passer pour certains d'entre eux. Seigneur, une vie pastorale n'est pas toujours une vie d'acclamation et de célébration. C'est parfois aussi des moments, Seigneur, où on reçoit la critique, où on essuie la critique, où on manifeste à notre égard une insatisfaction. Et parfois, Seigneur, effectivement, on doit malgré tout servir. Alors je prie, Seigneur, de fortifier nos serviteurs, de fortifier ces pasteurs que tu places autour de nous, de les encourager, de raviver la flamme en eux, Seigneur, et de faire en sorte, Seigneur, que nous aussi, en tant que brebis, nous aussi, en tant que membres du corps de Christ, nous soyons une occasion d'encouragement, un instrument d'encouragement, un instrument de bénédiction pour ces serviteurs, pour ces hommes de Dieu que tu as placés, Seigneur, comme anciens, comme maîtres sur nous, pas maître comme celui qui a des esclaves, mais comme maître celui qui nous enseigne. Seigneur, tu les as placés pour notre formation, pour notre éducation, pour notre préparation, pour notre affermissement et notre croissance. Alors, Seigneur, que nous puissions nous tenir à leur côté et les encourager dans leur travail qui n'est pas toujours facile. Alors, ce matin, je prie, Seigneur, pour ces pasteurs dont on ne mentionnera pas le nom, mais qui sont aujourd'hui peut-être découragés, peut-être inquiet, voire même, Seigneur, blessé. Je te prie, Seigneur, que tu apportes ta paix, ton repos, ton réconfort et ta joie dans les pensées de ceux-ci. Et pour nous, Seigneur, continue à nous travailler, continue à nous façonner et que nous puissions être profitables pour toi, quelles que soient les circonstances qu'on traverse. Nous t'avons prié dans le précieux, dans le glorieux, et dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve donc demain matin pour la suite. Je vous rappelle que les inscriptions ont déjà lieu. Déjà demain, il y aura une première vague d'inscriptions qui sera confirmée. Donc avec lundi qui était férié, il y a un peu moins de gens qui se sont inscrits. Donc, on s'attend à ce qu'à travers la journée, plusieurs le fassent. Donc, ne tardez pas, inscrivez-vous pour l'assemblée de dimanche si vous voulez y être en présentiel. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous N'ayez pas peur de vous abaisser, de laver les pieds de vos frères, de vos sœurs et de toute personne qui croise votre chemin. Et puis aussi, profitez-en ou profitez de la journée pour encourager certains serviteurs qui sont autour de vous, que Dieu a placés pour votre croissance et votre bien-être. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.